Donc ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Sadoun ben Johar, Zichron et Bracha. La question de Yossi.
C'est qui vraiment Machar? Genre quand on parle de Machar ben David, Machar ben Yosef, quand on parle que Machar il était voir certains rabbinim et tout, mais qu'il se cache en attendant de se dévoiler, on ne connaît pas vraiment grand chose sur le Machar et est-ce qu'il a des parents?
Bon, ok, je suis à des parents. Oui, il a des parents. Bon, alors comme ça, le Machar, il faut comprendre. Chaque génération, depuis que le temple a été détruit, il y a Midrash, le Midrash Echa, qui raconte que le jour de Tisha B'Av, lorsque le temple a été détruit, l'après-midi même, est né le Mashiach. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il vit depuis 2000 ans. Ça veut dire qu'à chaque génération, il y a un homme qui doit être évidemment un grand tzaddik, de connaître toute la Torah, être un grand érudit en Torah. C'est un homme qui souffre d'habitude beaucoup aussi. Et il est susceptible d'être le Mashiach. Si la date où Dieu veut que Mashiach se dévoile n'est pas encore arrivée, il meurt, succède un autre, de nouveau qui aura la même qualité. Et comme ça, à chaque génération, on a un homme qui est susceptible d'être Mashiach. On sait sur certaines personnes durant l'histoire qui pouvaient être Mashiach. C'est ça sur le Orachim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui est un homme d'une sainteté extraordinaire. Qui, chaque fois qu'il allait aux toilettes, il trompait au mikvé. De peur que dans l'urine, il y ait peut-être une goutte de semence qui est sortie. Rien que lire son livre, c'est à son yahrzeit, l'anniversaire de son décès, il est enterré ici à Jérusalem, c'est noir de monde de chassidim. Des Polonais, des Hongrois, des Tchécoslovaques. Où le rapport avec Orhem Kadosh, c'est un rabbin du Maroc, il vient de Salé, d'accord. Enfin, c'est pas du tout le... C'est pas le genre, quoi. Alors, parce que le Baal Shem Tov, qui est donc la tête du mouvement chassidique, un jour, il faisait une tête d'aim à Souda Shlishit, et il a dit, « Ner Amaravi Kabbalah, la lumière de l'Occident, s'est éteinte, parce que le Orhem HaKadosh venait du Maroc, c'est à l'Occident, c'est la partie la plus occidentale de l'exil du peuple d'Israël. Mais comment il savait? Il y a un secret d'un Tilat HaDaim, que seule une seule personne par génération sait. Et en faisant Tilat HaDaim cette fois-ci, Tachichi, tac, il a compris le secret, il en déduit que celui, il a dit, celui qui connaissait ce secret, c'est le Orhem HaKadosh. Et vu que maintenant j'ai eu ce secret, j'en déduis qu'il est décédé. Et c'est effectivement le cas, il était décédé. Et dans son livre, d'ailleurs, Orhem HaKadosh, il écrit un moment, le Mashiach dont le nom est Chaim. Chaim, c'est lui, d'accord. Voilà, Rabbi Chaim Ben Attar. Ça se peut qu'il voulait dire lui de façon allégorique, qui est le Mashiach dont le nom est la vie. Chaim, c'est le nom de la vie. Donc on sait sur lui. On sait sur Baba Meir, le fils de Baba Salé, Rabbi Meir Bouchatzera, qui devait être Mashiach, il pouvait être Mashiach. D'ailleurs, on m'a dit dans la famille, il y a une tradition. Ruach Apenu Mashiach Hashem. Ruach Apenu, le souffle de notre. C'est un verset dans le prophète qui parle du Mashiach. Ruach Apenu, le souffle de notre nez, Mashiach Hashem, le Messie de Dieu. Les initiales de Ruach Apenu, Mashiach Hashem, c'est Meir, dans le désordre. Baba Meir, Rabbi Meir, Abu Hatzera. Et d'autres ainsi. Lorsque le moment se dévoile, que Dieu veut que Mashiach se dévoile, le Zohar dit qu'il y a dans le paradis un endroit qui s'appelle Kantsipor. Kantsipor, c'est le nid de l'oiseau. Là-bas se trouve l'âme du Mashiach. C'est la Yechida. On a chacun de nous, on a cinq âmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La Yechida du Mashiach. Elle est unique, elle est très très haute. À ce moment-là, cette Yechida descend dans cet homme-là. Il se trouve investi tout à coup de pouvoir extraordinaire. Entre autres, c'est marqué « Biruach Satav Yamit Racha ». Par le souffle de ses lèvres, il tuera le mécréant. Lorsqu'il y a eu le faux messie Shabtai Tzvi, il marche mot, et deux personnes sur lesquelles on peut dire « il marche mot », que son nom soit effacé. C'est l'homme qui vivait il y a 2000 ans, qui a été tué, et l'acrobate qu'on appelle, et Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi qui était un faux messie, qui était un très grand sage d'Israël, qui vivait ici en Israël, et qui a dit qu'il était Mashiach. Il y a un grand sage aussi, un autre, très grand kabbaliste aussi, qui est venu, il s'appelait Rabbi Nathan, et les deux, une nuit entière, se sont bagarrés. Qui des deux était Mashiach? Pour finir, c'est Shabtai Tzvi qui a eu raison, Alors Rabbi Nathan, ok, moi je serai ton prophète. Et Rabbi Nathan allait annoncer partout que le Mashiach est arrivé. Et des centaines de milliers de juifs ont cru en cela. Ils ont quitté leur affaire, ils ont quitté leur pays, ils sont venus et tout ça, etc., etc. Et il semblerait qu'il utilisait des forces impures. C'est-à-dire qu'il a dévié pas par le bas. C'est pas qu'il y a des gens qui dévient par le bas. Donc, il a une basse envie animale, il fait un péché. Lui, il était très très haut, et dans le haut, là-bas, il a dévié un peu. Et il utilisait des moyens pas très cachers, des forces impures. La plus grande génération à l'époque, le plus grand rabbin s'appelait le Taz. Le Taz. On appelle ainsi parce qu'il écrit un livre qui s'appelle Tourézav, un commentaire sur Shulchan Aruch. Et il a envoyé son fils. Va voir qui est cet homme-là dont on parle. Le fils est revenu, il a dit, c'est extraordinaire. Il ne me dit rien, il dit, qu'est-ce que tu as vu quand tu es rentré? Il m'a dit, je l'ai vu, il était couché sur le dos, un peu sur le côté. Et quand je suis rentré, vu qu'il était sur le dos, on n'a pas le droit d'être sur le dos. On doit être sur le côté toujours. Et c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un de très gros, comme Rabbi Yochanan, c'était un des grands sages du Talmud, qui est très très gros. Alors pour lui, il peut pas être sur le côté complètement, il peut être à moitié sur le côté. Alors quand je suis rentré, Shabtetzvi, qui était très gros aussi, il m'a dit, moi je suis comme un Yochanan, je peux être un peu sur le côté. Le Taz a dit, ça ne peut pas être Mashiach. Mashiach n'a pas besoin d'autorisation spéciale pour les gens gros. Mashiach, c'est un homme super sain. Enfin, une autre histoire aussi, c'est que des gens dans une ville sont venus dire qu'il y avait un gouverneur extrêmement dur, antisémite contre les juifs et qui faisait des décrets terribles contre les juifs. On lui avait demandé de l'aide à Shabtetzvi. Shabtetzvi a pris une plante par terre et a dit, comme je déracine maintenant cette plante, comme ça que son âme aussi soit déracinée et qu'il meure. Et sur place, le type, il est mort. Le Taz, ce grand sage d'Israël, ça c'est une preuve que ce n'est pas Mashiach. Parce que le Mashiach ne va pas utiliser des choses pareilles, déraciner une plante, c'est quoi ces machins-là. Le Taz, il dit un mot, c'est marqué, avec le souffle de ses lèvres, il tue le mécréant. Donc il dit, meurt, plaque, d'accord, le cri qui tue, d'accord. Je vous dis, c'est le souffle qui tue. Donc ce sera un homme qui aura des pouvoirs énormes, preuve en est, qui doit faire en sorte d'éradiquer tout le mal de l'univers, parce qu'il va se dévoiler, les peuples vont venir en guerre pour le tuer, ça s'appelle les guerres de Gog Magog, et lui va les vaincre. Il va les vaincre, il va éradiquer tout le mal du monde, et va ensuite élever toute l'humanité, les juifs, les goyims, ceux qui resteront, élever jusqu'à la connaissance totale de Dieu, parce qu'on arrive à une situation dans 40 ans après la venue du Messie, d'après le Zohar, commence une autre période qui s'appelle la résurrection des morts, c'est une autre période qui vient après. Certains disent que déjà à l'époque messianique, il y aura une résurrection des morts, bon, c'est une divergence d'opinion. Donc chaque génération, il y a un homme. Cet homme-là, c'est un homme normal. Pas comme toi et moi, parce que nous, on est des nuls. C'est un monsieur très, très grand en Torah, qui se cache d'habitude, qui ne montre pas sa grandeur en Torah, qui est très humble, très sadique, très pieux, très saint. Qui il est, on ne sait pas. Tu m'as dit qu'il va parler des rabbanim, on n'est pas au courant qu'il parle des rabbanim. Beaucoup de rabbanim disent qu'il est là, qu'il se promène entre nous. Je ne sais pas s'ils l'ont vu. Je ne sais pas s'ils l'ont vu et si c'est dévoilé à eux. Se peut que les très grands rabbanim, Eliyahu HaNavi vient leur parler. On sait par exemple que le Rav Chaim Kanievski, un des grandes générations aujourd'hui, il y a quelques années, le Rav de mon quartier, le Rav Shlomo Zafrani, qui est un ancien élève du Rav Yehuda Hades, le Sheva Kol Yaakov. Il y a une coutume, pendant les fêtes, on va visiter son Rav. Donc le Rav Shlomo Zafrani, qui a bientôt il a bien 60 ans, d'accord, tu es allé voir son Rav, qui a 75 ans, le Rav Yehuda Hades. Et là, il y avait tous les anciens élèves chez le Rav. Et le Rav Hades a demandé à ses élèves, toi tu es proche du Rav Eliashiv, raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe chez le Rav Eliashiv. Il a dit, j'ai une histoire très intéressante. Pendant ce Pessah, c'est pendant la fête de Pessah, la fille du Rav Eliashiv est venue, Batsheva, déjà décédée maintenant, c'est la femme du Rav Chaim Kanievski. Elle est venue visiter son père avec son mari, le Rav Chaim Kanievski. Il a dit à son papa, tu sais, Chaim, son mari, le Rav Chaim Kanievski, il a Gilou Eliyahu. Eliyahu Hanavi se dévoile à lui. Le Rav Eliashiv a demandé à son gendre, c'est vrai? Il n'a pas répondu. Et là, nous apprenons que Rav Chaim Kanievski l'a Gilou Eliyahu, ce qui ne m'étonne pas. Les grandes générations, c'est clair. On peut étudier avec des grands tzadikim décédés. Ça arrive. Ce même Rav Yehuda Hades, lorsque son fils, Rabbi Yaakov Hades, qui est très connu aujourd'hui, il prie au Kotel, etc., d'accord, lorsque son fils est marié, je me souviens, je fréquentais sa yeshiva, Kol Yaakov, et elle racontait des histoires sur la famille. Alors, elle dit que son père, Yaakov Hades, le grand-père de Yaakov Hades actuel, d'accord, qui est un grand kabbaliste, a raconté à son fils, Rabbi Yehuda Hades, que lorsque lui, Rabbi Yaakov Hadès, s'est marié, le lendemain matin, son père, Rabbi Avraham Hadès, qui est un super grand kabbaliste, très très grand, énorme, lui a demandé, dis-moi, t'as rêvé de quelqu'un cette nuit? Il dit, oui, j'ai rêvé d'un rabbin. Il dit, comment t'es habillé? Comme si, comme ça, comme ça. Ah, c'est le Rif. Le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. C'est un grand sage d'Israël qui vivait il y a environ 1000 ans. Il venait de Fès, El-Fassi, qui venait de Fès. Alors Rabbi Yaakov a demandé à son père, Rabbi Avraham, mais papa, comment tu sais? Oui, j'ai un shiur tous les jours avec lui, avec le Rambam. Bon, ça c'est des grands, les grands d'Israël, ils ont des shiurim avec les... Donc ne croyez pas qu'il s'agit de Yosef. Bon, si vous forcez bien, peut-être ils viendront quelques-uns comme ça, mais bon, c'est pas notre niveau, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Mais pour les grands de la génération, les anges qui sont saints, grands et purs, c'est courant. Et paraît-il qu'un dévoilement d'un tzaddik décédé, le dévoilement le plus facile à avoir, celui de Yohanan Hanavi. Il y a beaucoup d'histoires dans les sages d'Israël, très souvent, Yohanan Hanavi se étudie avec... On a un rabbin dans l'Agma, il s'appelle Rav Anan. Rav Anan. Rav Anan, il a écrit un livre entier de tout ce qu'il a appris avec Eliyahu Hanavi. Il s'appelle Tana de Beliaou. Tana de Beliaou. Une fois d'ailleurs, il a fait un acte pas très bien, de façon un peu. En se trompant. Enfin, il n'a pas bien pris en considération tous les tenants et aboutissants. Il a fait un truc pas très bien. Et dès lors, Eliyahu Hanavi ne venait plus le voir. Il a jeûné je ne sais plus combien de temps. Eliyahu Hanavi est revenu, mais il avait une peur. Lorsque Eliyahu Hanavi se dévoilait, Rav Anan ne pouvait pas supporter la lumière. Alors il a écrit, il se retrouve dans une boîte, et Eliyahu Hanavi lui enseignait de dehors de la boîte. C'est pour ça qu'on a deux livres de Tana Beliaou, le rabbin et le zouta, le grand et le petit. Le grand, c'est ce qu'il a étudié hors de la boîte, et le petit, ce qu'il a étudié dans la boîte, après sa faute. Sa faute, on dit, mais c'est une faute vraiment, bon, c'est pas trop de sa faute, mais c'est un peu de sa faute quand même. Hein?
Une boîte, c'est-à-dire ?
Une sorte de boîte fermée, comme ça, un grand carton, comme tu as dans les frigidaires, on te met un grand carton dans le frigidaire, tu gardes le carton, hop, tu fais une petite fenêtre dedans et tu étudies dedans. Voilà.
Il se matérialise.
Ouais, ouais, il vient et se matérialise. Ouais, ça arrive très souvent. Il paraît-il qu'il vient des fois déguisé en ci, en ça. Bon, mais venir étudier avec lui, paraît-il, chez les gens qui s'y connaissent, le plus facile à avoir un dévoilement de sa part.
Enfin, comment toi le reconnaître,
écoute, si je savais, je t'aurais dit. Avraham, c'est-à-dire son fils, comment il est habillé, il lui a dit, moi je ne sais pas comment il est habillé à mon avis, le jour où je saurai, si tu mériteras, je te raconterai, d'accord. Il faut d'abord que moi je mérite, et je ne mérite pas pour le moment, volontairement arabim. Bientôt, bien, mon avis, va nous annoncer que ma chère vient, tout le monde verra comment il est habillé. Donc on parle du Mashiach. Donc Mashiach, je ne sais pas s'il se dévoile au tzadikim de la génération, mais c'est vrai que les tzadikim de la génération savent par Eliyahu Hanavi qu'il est très proche.
Vous aviez dit qu'il était Rav David, il avait rêvé de son grand-père ou quelqu'un comme ça, et qui lui avait dit dans son rêve, comment ça tu t'es pas levé ton Mashiach ? Quoi il était passé ?
Rav David Abouhassera, que depuis quelque temps il recevait les gens debout, parce que son père, Baba Meir, veut lui dire, deux fois Mashiach est venu te voir, tu t'es pas levé, devant lui. Voilà, parlait-il, ouais. C'est un bruit qui court. Ouais.
Et une information sur son âge, sur de quelle génération il appartient ?
On ne sait absolument pas. Quel âge, comment, qui, quoi ? Il doit être un descendant du roi David par son père. Donc cela exclut tous les convertis. Il doit être un très grand sadique. Un homme et pas une femme, parce qu'il doit être roi d'Israël. Voilà. Et on l'attend.
Et comment faire ? On va se trouver.
Ah, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de gens qui diront qu'il est. On s'est marqué avant que Mashiach vienne, il y aura beaucoup de faux messies. Alors, ce moyen de ne pas se tromper, c'est écouter les grands de la Torah. Les grands de la Torah qui, eux, se méfient des faux messies, parce qu'il y en a eu de tout temps. De tout temps, il y a eu des faux messies. De tout temps. C'est dans les Maïmonides, il y a un au Yémen, il écrit une épître au Yémen, parce qu'il y avait là-bas quelqu'un qui se prenait pour un messie. Il y avait un. Il raconte du temps de son père, il écrit comme ça, le Rambam. Maïmonide écrit il y a 900 ans, il écrit le temps de son père. Il y avait un faux messie dans une ville en France, Lyon. Donc, il y a une grande communauté de 10 000 juifs. Il écrit comme ça il y a 1000 ans. Il y avait 10 000 juifs à Lyon. Et un type qui se prenait pour le messie, il sautait d'arbre en arbre. C'est comme s'il volait d'un arbre en arbre comme ça, et il prenait pour le messie. Et les Français ont appris ça, ils l'ont pris, ils ont fait des grands pogroms contre les juifs. D'habitude, quand quelqu'un dit qu'il est le messie, et alors les juifs commencent un peu à se réveiller. Chapitre qui s'est passé avec Chapitre dessus. Il est parti avec tous ses adulateurs, quelques millions, il est parti à Istanbul. Ça commence à faire une grande manif. Le sultan, il a dit, amenez le meuleur. Il a dit, mon cher ami, ou te convertis à l'islam, ou je te coupe la tête. Il dit, c'est bon, je me convertis à l'islam. Il s'est converti à l'islam, ça peut être suit. Et là, c'était terrible. Beaucoup se sont convertis avec lui à l'islam aussi, beaucoup de juifs. Et depuis, c'est un des seuls, comme je dis, il marche au mot que son nom soit effacé. C'était un grand, grand rachat. C'est un grand mécréant de faire une chose pareille, et d'autant plus qu'il est censé être le Messie. Heureusement, les grands d'Israël ont averti. Le Taz, c'est pas lui. Il y a une grande guerre. À l'époque, un des grands opposants de Chaplassi s'appelait le Rav Shashportage. Shashportage, d'accord. Et on raconte qu'un jour, Chaplassi est venu dans sa ville, Shashportage, pour se montrer à lui et le convaincre. Et alors, le Rav Shashportage savait que pendant le Shabbat, Chaplassi allait venir dans la synagogue. Il a fait fermer la synagogue. Chaplassi vient avec toute sa bande, tous ses adulateurs. Il défonce la porte, chose qu'on ne peut pas faire Shabbat. Et lui, pourquoi tu ne crois pas en moi? Si c'est moi le Messie, que ton père et ta mère, qui sont déjà décédés, sortent de la tombe et rentrent maintenant par la porte. La porte s'ouvre, on voit un vieux pépé, une vieille mémé qui rentre. Le papa, monsieur papa et monsieur maman, charge portage. Le Rav, il n'a pas eu peur, il a dit, la Torah ordonne d'honorer son père et sa mère quand ils sont vivants, mais pas quand ils sont morts. La vérité, c'est pas vrai, parce qu'aussi quand ils sont morts, il faut les honorer, faire calife, etc. Mais pas, il n'y a pas d'interdiction de frapper, par exemple, son père qui revient en tant que revenant, d'accord? Il a pris son bâton et tac, sur le papa, et tac, sur la maman. Ils sont transformés en chiens, ils sont partis en courant. C'est un tour de magie. Donc il utilisait les forces impures pour moi. Et ça arrive. Donc le seul moyen de ne pas se tromper, écoutez les grands de la Torah. Et c'est clair qu'on attend, comme je l'ai dit dernièrement, on attend Mashiach très très fort pour très très bientôt. Il y avait le Rav Gruner, c'était le secrétaire du Rabbi. Il était la semaine passée en Israël, où il est. Il a dit, on a une Kabbalah, une tradition du Admor HaZaken, le premier de la dynastie de Chabad, que le Mashiach viendra en l'année 5775. Bon, Bar Tachem, s'il n'est pas arrivé cette année, alors c'est pas grave, beaucoup de dates ont été données. Mais Bar Tachem, c'est tout le monde aujourd'hui, je veux dire, même les gens les plus froids, ils commencent un peu à chauffer, parce que tu vois bien que 45 pays qui s'allient contre l'État islamique, le Hezbollah qui s'énerve, cette année à Rosh Hashanah, la guerre va éclater. Tout montre que c'est très proche de Bar Tachem. Mais c'est clair qu'il y aura un grand bilboule. Un grand bilboule, comment c'est traduit en français ? Grande confusion. Nous ne saurons pas quoi, qui, comment, donc, où, tout ça. Le seul moyen de ne pas se tromper, écoutez les grands d'Israël. Les grands, grands, grands. Pas les kabbalistes, entre guillemets. D'accord ? Les grands, très pour le Rav Steinman, le Rav Kanevski, voilà. Les grands que nous avons aujourd'hui, et le Rav Ovadiané n'est plus là.
Le Rav Abouetzera qui a l'arrêt
aussi. Donc, ça, ce sont les grands d'Israël. Si on les écoute à eux, on est certain qu'on va dans la bonne direction. Si on se fait appâter par toute chose, et il y aura des appâts, je racontais souvent déjà, qu'il est écrit à l'époque messianique, que Dieu va prendre une corde et va la secouer très très fort. Que ceux qui tiennent très bien la corde tiendront le coup. Il n'y a pas qui partiront en cacahuète. Ça y aura une grande confusion. Beaucoup de gens, on ne saura pas. Des trucs très très durs. Jamais à
sort. Ça peut être quoi, quelqu'un qui vient et qui tourne la tête à tout le monde.
Imagine maintenant qu'il y a une guerre contre Israël. C'est marqué que la 7e année, il y a une guerre. Imagine maintenant, nous on est habitués maintenant, Tzahal gagne toutes les guerres. Imagine qu'on perd la guerre. Et ils se rapprochent. Et ils viennent. Et tout le monde prie et ça ne marche pas. Hein? Alors en fait, peut-être que c'est des histoires tout ça. On te dira, maintenant c'est plus ça, il faut prier à Dieu. Ça ne peut plus rien faire.
Ça serait bien.
Hein? Ça sera bien, ouais, c'est ce que Dieu veut, compris. J'ignore, je dis ça, je ne suis pas demain, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais... Et il n'y a pas eu de ce dernier siècle des faux messies. Combien de gens ont quitté la Torah au nom du sionisme athée? Ils sont venus du sionisme athée, ils sont venus en Israël, mais attends, en Israël fini, ça c'était ici un temps, hein. Être religieux, ça s'appelait être un juif de galoute. De galoute. La Torah, c'était bien qu'on était en exil, on est revenu ici, c'est terminé. Maintenant, plus besoin de ça. Maintenant, on est aussi en terre d'Israël, on va vivre. C'était à l'époque, c'était devenir des agriculteurs, travailler la terre, aller dans les kibbutzim, aller à l'armée. C'est ça le prototype du nouveau juif. Combien de centaines de milliers ont cru à ça, ont quitté la Torah, à cause de ça? Alors, au Hachem, on a un État, on est très content de cela, et c'est certain que ça s'inscrit dans le phénomène qu'il y aura avant que la Géoula vienne. C'est clair, mais tout cela est pour la Torah. C'est ça le but. Nous sommes, on est le peuple de Dieu, on est le peuple du livre, on est le peuple de la Torah. Vouloir déraciner le peuple de sa Torah, c'était un faux messie. C'était un faux messie, c'était un message idéal, idéaliste de retour en terre d'Israël, mais avec une déviation. C'est ça le danger. Comme la chrétienté, d'accord, la chrétienté. Jésus ne l'a pas dit aux gens, venez, on va être chrétiens. On va être juifs. On va être des bons juifs. On va mettre l'accent maintenant entre l'amour entre les gens. Moins sur la cache-route, et puis on va être cool, hein, les cheveux longs un peu, et puis la guitare. D'accord, il était cool. Ouais, on crée une sacrée un peu, voilà. Il y a toutes sortes de mouvements comme ça, attention. Le seul moyen, écouter les grands de la Torah. Bien qu'ils ont l'air, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent mieux que tout le monde. C'est les gens qui sont branchés avec Dieu. Mais il a 102 ans. Au contraire.
En même temps, c'est bien, parce que comme malheureusement, les grands de l'Adam qui nous restent, ils sont quand même âgés, c'est qu'ils seront là pour nous le dire. Donc c'est pour bientôt, parce qu'ils n'ont pas mis encore 1000 ans. Donc.
Comme tu dis, Berat Hashem. Berat Hashem, avec l'aide de Dieu. Des questions encore?
Je ne sais pas si c'est un rapport, mais hier ou avant-hier, je crois que c'est le djihad islamique, je crois qu'ils ont attaqué le Hezbollah.
Le? Qui?
Le djihad islamique ou l'État islamique qui a attaqué le Hezbollah.
L'État islamique est en guerre avec Hezbollah depuis longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est marqué comme ça. Là. Je vous ai déjà raconté souvent que c'est marqué que dans le traité Megillah, page 17b, c'est marqué que la sixième année, donc il y a le cycle Jacher, d'accord, aussi, le cycle de la Shemitah. Alors dans 3-4 jours, prochain, on rentre dans la septième année. C'est marqué que la sixième année, il y aura des voix. Des voix de quoi? Rachid donne deux explications. Soit des voix que Mashiach reviendra, et ça, cette année, on était comblé de ça partout, on a entendu de tous les côtés. Soit des voix de chauffard. On va entendre un bruit de chauffard comme ça. Alors sur Internet maintenant, tout le monde raconte qu'il y a eu des bruits de chauffard, des gens ont entendu. Moi, je suis très sceptique. T'entends-tu de quoi?
Moi, j'ai entendu, mais ils ont dit que même à CNN, ils ont dit aux États-Unis qu'ils entendaient des bruits de chauffard, ça peut nous servir. La
ouais.
NASA, c'est la NASA qui sait qu'ils entendent les bruits.
La NASA a dit ça?
La NASA, elle a dit qu'ils entendent les bruits.
On voit que c'est pas faux.
Non, mais ils n'arrivent pas à dire d'où ça vient. Ils ont cherché, justement, ils n'arrivent pas.
Bon, moi, je suis super sceptique.
Moi aussi, on l'a pas vu.
Et j'ai un argument, j'ai pas vu ces vidéos, mais j'ai un argument qui dit si Dieu, maintenant, il veut amener des bruits de chauffard, ben. Il le fait devant tout le monde, voilà, qu'un million de personnes l'entendent, tout Jérusalem, enfin, on est tous en entendu, on n'est pas bêtes, voilà, ok, ça marche. Bon, alors c'est intéressant parce qu'une fille m'a écrit, j'ai dans mon bureau à Paris, j'ai entendu un son de chauffard. Ouais, à Paris. Bon, peut-être qu'elle est un peu. Pas normale. Ma femme la connaît bien, mais non, tout à fait normal, tout à fait bien, ok. Un élève à nous ici, Chaim Sima, qui dit la semaine passée, au milieu de la nuit, il entend un bruit de chauffard. Mon cher ami, t'es à Ramot, t'avais l'heure du chanel, du bruit de chauffard, c'est un peu normal. Non, mais à 3h du matin, 3h du matin, on sonne pas du chauffard. Je sais pas, peut-être qu'un type qui s'entraînait, mais à 3h du matin, c'est pas le moment. Bon, ce matin, il me dit que cette nuit à 5h du matin, il entend le bruit de chauffard. Je lui dis, mais 5h du matin, c'était sirote, mon cher ami. Non, mais il me dit, c'est comme ça, c'était pendant 5 minutes, un bruit continu. Parfait. Lui, maintenant, là, Chaim, c'est un élève ici, d'accord, c'est pas un type marbré, il est bien, il est normal, d'accord. Lui et sa femme, ils sont levés, ils sont allés à une fenêtre, là, ils entendaient plus, là, ils entendaient moins, d'accord, comme ça. Tu, comme ça, il me dit, tu, net pendant 5 minutes, continue, ouais, comme ça. Ça devient intéressant. Bon, écoutez, espérons. Top. Alors, c'est marqué dans toute la Megillah, page 17b, c'est marqué aussi dans le Sanhedrin, page 97b. Comment dire de racheter dans Sanhedrin? Deux endroits, c'est dans le Talmud. Ça aussi se réalise. Donc, messieurs, si la sixième année, il y a eu ces bruits-là, et les voix de Mashiach, des voix comme quoi Mashiach revient, et il y a eu les voix du chauffard, septième année, c'est marqué une guerre. Guerre, pas la guerre entre les États, par exemple, la coalition contre l'État islamique, mais une guerre des goïms contre Israël. Comme j'ai dit dans mon cours dernièrement, j'ai très peur que ce soit Hezbollah. Hezbollah, qui est la menace la plus grande qu'il y a sur Israël, ils ont direct, qui sont très dangereux, qui aujourd'hui ont besoin de montrer, redorer un peu leur drapeau au Liban. Ce moyen de redorer le drapeau, c'est annoncer une guerre contre Israël, déclarer une guerre contre Israël. Et il y a des avertissements, vu qu'on sait qu'il y avait des plans d'attaquer à Rosh Hashanah. Il semblerait que ces plans ne sont pas encore mis dans les tiroirs. Hachem et Azor, que Dieu nous protège. Bon, on va faire beaucoup de chouva. Et voilà. Avoir confiance en Dieu. C'est marqué que ma chère vient à la fin de une année entière à tirer. J'imagine qu'on verra des miracles très grands aussi. On a vu comment Dieu nous a protégés jusqu'à maintenant. Il faut se rappeler du passé. Le simple miracle qu'on a tous en Israël maintenant, après 2500 ans, on revient à Yerushalayim et est construit. Et le monde de la Torah, c'est un monde de Torah qui est là. C'est extraordinaire. Voilà, c'est encore un peu sur ma chère. Oui.
Est-ce qu'on sait, par rapport au Léviathan, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va sortir que...
Léviathan, c'est écrit comme ça, que Dieu a créé. Donc Léviathan, ce sont des sortes d'animaux marins monstrueux. Et il y avait une femelle et un mâle. Dieu, il a tué le mâle, la femelle, et il a salé. Il a laissé pour, ou la femelle, je ne sais plus, la femelle, et il a tué, il a salé pour les tzadikim, de génération, pour la tzadikim, mais d'abord dans le futur. Et c'est, oui, salé, on sale le poisson pour pas qu'il pourrisse. Et c'est marqué que, donc, à la fin de l'heure, il y a un grand repas avec les tzadikim, et là-bas, on mangera de la chair du Léviathan. On mangera aussi de Chorabar, exactement, du bœuf sauvage. Chorabar, voilà. Alors, il faut comprendre une chose. Tout cela, il s'agit de notions de mystique. Voilà, c'est pas qu'on va manger un bon steak de baleine. Alors, d'accord.
On passerait le premier soupçon dans les datas.
J'ai pas compris. Qui a dit ? Je sais pas ce que c'est.
Comme Daniel, j'aurais eu un rapport avec un mur.
Non, en deux mots. À l'époque messianique, l'humanité va monter de niveau spirituel très très grand et on va commencer à jouir des grands cadeaux spirituels que Dieu nous a.
Il va faire la shrita au chemin. Il va le prendre par les cordes, qu'il va lui mettre un coup de pied.
Toutes ces choses-là sont des choses imagées, c'est clair, bien sûr. Non, il est dans la main, bas, quelque part. Ce sont des notions mystiques.
Non, c'est que quand il y a des tsunamis, c'est justement, ils disent que c'est des
tsunamis. Tout ça, c'est des notions mystiques. Même si c'est ça ce qui provoque les tremblements de terre, alors c'est la cause du tremblement de terre.
Ah, donc c'est pas une bête physique.
Non, c'est clair que non.
Est-ce que c'est un signe ? Je crois que c'était un ou deux, j'ai vraiment rêvé vraiment du Mashiach, mais vraiment genre.
Mais mon cher ami, tu sais combien de gens rêvent du Mashiach ? Tu sais combien de gens rêvent que c'est eux-mêmes le Mashiach ? Ça ne veut rien dire.
Non, pas du Mashiach, mais genre, ils ont rêvé du sofa et tout, genre.
Il y a 1000 ans et 2000 ans aussi, ils rêvaient de ça. Ça ne veut absolument rien dire, à mon humble avis. Les rêves, c'est pas, on n'est pas au niveau de prendre au sérieux nos rêves. Ok ? Encore une question là sur le sujet ? Oui.
Si, dans le court temps qui vient de cette année, on devait avoir, entre guillemets, ces signes d'une guerre contre Israël.
4 jours.
Non, ça veut dire, après recherche, est-ce qu'on rentrerait dans la 7e année ?
Ouais.
C'est quoi ça ? On devrait être joyeux, on devrait se réjouir, dire
non,
enfin, ça
non.
Serait là, on devrait y croire ou on devrait avoir peur ?
Les deux. D'un côté, y croire, mais pas dire, ah, quel kiff c'est la guerre. La guerre, ça veut dire qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, c'est très très dur. Donc il faut rentrer en situation de tension très grande, prier à Dieu beaucoup, beaucoup, faire tchouva énormément. Faire tchouva beaucoup, énormément, qu'il y ait beaucoup de mérite pour qu'il n'y ait pas. Que le mal soit éradiqué, qu'il n'y ait pas beaucoup de nos frères, aucun de nos frères qui soit touché, que se dévoile dans le rachamim, dans la miséricorde, qu'il n'y ait pas avec des effusions de sang. On a déjà trop de sang versé, ça suffit, basta. Voilà, mais pour ça, il faut prier beaucoup. C'est un accouchement, comment ça se passe le dernier moment ? C'est terrible. Un mari, il prie, il se déchire, il pleure, il prie, et à la fin, ça sort. Ok, mais la dernière phase, elle est dure.
Pas que si on est méritant, il viendra par un nuage, et si on ne l'est pas, il viendra par un âne.
Ouais, c'est juste. Mais c'est aussi, j'imagine, de façon imagée. L'âne, c'est le chomer, c'est la matière. On est déjà, tu vois qu'il vient par des guerres, par la Shoah, des trucs terribles. On a suffisamment bavé, Baruch Hashem. Adkan, fini maintenant, rien que le bien, dans ta chaîne.
Imaginons, avant d'avoir Mashiach, il y a cette année, nous, par exemple, pour nous, les jeunes, on va se marier.
Quand Mashiach arrive, tout continue normalement. Enfin, il y a une discussion entre Chachamim et Shmuel dans la Gemara. Est-ce que lorsque le Mashiach vient, tout continue normalement ou pas ? Shmuel dit que oui, Chachamim dit que non. Bizarrement, le Rambam a tranché comme Shmuel, dire que tout continue normalement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de jalousie, il y aura une connaissance de Dieu. Mais il n'y aura pas tout à coup les arbres, comme c'est écrit à l'époque messianique, les arbres vont donner des gâteaux, vont donner des habits, d'accord. Ça, c'est une chose qui sera plus tard. Il y aura des changements miraculeux dans la nature, mais pas dans la première phase du Mashiach. Parce que le Rambam tranchait comme Shmuel. Le Ravad, qui était à l'époque du Rambam, je ne comprends pas, on a une loi pour statuer l'Halakha qui dit que si on a un contre plusieurs dans la Gemara, on va les prêter plusieurs. Or, Shmuel, il est un par rapport à Rabbin, qui sont plusieurs. Et Rabbin disent que tout va, oui, changer. Donc, je pose la question au Rabbin Sion il y a 20, 30 ans, je ne sais plus comment ça sera. Il m'a dit, Marloquet, entre le Rambam et le Ravad, quand Mashiach viendra, on verra qui avait raison. Mais même si les choses restent miraculeuses, on va continuer à se marier, on va faire des enfants. Bien sûr, il y a un problème.
Pardon ? Que le lion mangera de la paille à côté de la gazelle, pour dire que comme la télé, il y a des tébats qui mangent.
Qui va manger ?
Que le lion, il mangera du foin.
Alors, Rambam m'explique, c'est quoi que le lion et le mouton pèteront ensemble ? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Lui, il comprend comme ça, le Rambam. Ok, Barat Hashem, c'est clair qu'il y aura des grands choses, mais regarde, même si on n'a pas droit aux grands miracles, ça viendra après, ce n'est pas le but, les miracles. On n'est pas intéressé à ce qu'il y ait des gâteaux et des abus sur les arbres. On est intéressé à ce qu'on puisse enfin connaître Hashem, connaître les grands secrets de la Torah, se brancher avec ça, c'est le plus grand kiff qu'il puisse y avoir. Ouais. Oui, dernière question.
Est-ce qu'il est mieux d'être en Israël ?
Il n'y a aucun doute là-dessus. Celui qui peut... C'est aux premières loges. Bien sûr, c'est clair. On ne sait pas comment ça sera. Il y en a qui ont dit qu'il y a un moment ça sera bloqué, on ne pourra plus venir. D'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible. Hein?
Dans un vocaux, vous avez dit qu'il devait passer par la France.
Jamais dit ça. Non.
Il n'est pas qu'il doit passer par la France.
Peut-être qu'il est passé, ça fait déjà 40 ans qu'il est là, je ne sais pas si c'est. Ça se peut. Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Baba Meir est bien passé par la France pour venir en Israël. Baba Meir, le fils de Baba Salé, j'imagine, ils sont passés par. J'ignore. Il y en a qui ont dit le Rav Chaim Ketzer a dit à une époque, venez, parce que quand vous voudrez venir, vous ne pourrez plus venir. Ça sera déjà bloqué. Et j'imagine que si il y a une guerre, on prend plus, tu vois déjà qu'il y a un peu des missiles par-ci par-là, ils ont arrêté l'aéroport 2-3. Mais si c'est une vraie guerre, ça peut être complètement arrêté. On voit qu'il y a beaucoup, paraît-il qu'il y a beaucoup de tremblements sismiques dans le monde, des volcans, des machins, tout ça, qui se mettent un peu à bouger un peu comme ça. Imagine que maintenant Dieu décide, tac! Et tous les avions, il y a 3-4 volcans qui sont allumés dans le monde, aucun avion peut décoller. Tout va changer. Hachem, il gère le monde, il fait comme ça, tac, tout change. Il fait un tremblement de terre maintenant. Il peut changer les données de tout en une seconde. Aujourd'hui, Israël se trouve bien, on est Tzahal, machin, il fait trrrram, ça prend 10 secondes. Il n'y a plus rien. Tu n'as pas ni Internet, tu n'as plus rien, tu as tout qui est bloqué, tu es là. Et les Arabes autour qui disent, hey. Ils nous foncent dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut comprendre que nous, on a l'habitude de croire en vie. Donc, il y a un exemple qui est donné comme, on dit que c'est un accouchement machéach. Alors, tu as un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il discute avec son frère jumeau. Et il paraît qu'il y a une vie après. Pff, mon cher ami, tu rêves. Comment tu peux vivre sans cordon ombilical et sans le liquide amniotique? Du coup, tac, il voit son frère qui parle. Le pauvre, il est mort. Il entend crier dessous. Il y a une vie après. Lui aussi, il sort. On voit le liquide amniotique. Et il coule. Le cordon ombilical, on le coupe. Et tout ce qui était fermé, la bouche, elle s'ouvre. Les yeux qui étaient fermés, ils s'ouvrent. Tout change en une seconde. Hachem peut faire maintenant. Alors, il faut comprendre qu'on est maintenant les données dans le vent de la mer. Et dès qu'on sort, il y a tout qui change. Et ça va aller très très vite.
Avant de crier, avant de respirer, il pleure.
Pardon ?
J'espère
qu'on ne devra pas trop pleurer avant de respirer. La bonne préparation à l'époque messianique, elle est de commencer à compter sur les valeurs sûres. La Torah, la foi en Dieu, la foi en Dieu, la foi, le bitachon. Parce que toutes les choses sur lesquelles on compte, elles vont disparaître. L'argent, la puissance stratégique, tous ces pouvoirs qui sont des pouvoirs vont disparaître parce qu'il n'y aura plus que le pouvoir de Dieu. Et c'est en cela qu'on doit croire.
Ça fait très peur quand même.
Hachem Yazor. Baruch Adonai, l'homme va.